Bon, aujourd'hui, on est au mois de mai 82. Papa, j'aimerais ça que dans le cadre du programme Mémoire d'une époque, que vous me parliez de votre coin où vous êtes né, en Gaspésie. J'aimerais ça que vous me racontiez des détails là, à propos de Cedar Hall, qui est devenu Val-Briand par après. Vous pourriez me parler peut-être à partir de 1830, je pense que vous m'avez déjà conté.
À partir de 1830, le père de mon père, qui s'appelait Sigeon Falkenwell, a été déporté du nord de la France dans le comté de la Savoie. Et il a été déporté, je ne sais pas en quel honneur, à Métis près de Yamatan. Et il s'est marié à une nommée Rosalie Ross de Matan. Et dans sa vie, qui était très pauvre, il a su que le CNR à Cedar Hall avait besoin d'un garde-feu, en ce sens qu'il avait passé le chemin de fer dans une coupe, dans un roc, à peu près 400 pieds de long. Et il avait mis du bois pour la neige l'hiver, pour que ça ait trop une conflagration. Et le feu prenait quand le train passait en été puis en hiver. Alors, mon grand-père, il s'est engagé comme garde-feu à 5 pièces par mois. Et comme ils l'ont trouvé très bon, ils ont proposé de lui faire avoir une terre de la couronne.
Pour qu'il puisse demeurer là, sur place?
Oui, pour qu'il puisse demeurer là, et en autant qu'il ferait son ouvrage de garde-feu. Alors, il a été plusieurs années, et il est mort d'un accident, il a tombé là, en bas du parapet, là. Il est mort subitement. Et sa terre a été donnée à mon père. Et aujourd'hui, bien, c'est la sixième génération. Mais à un temps, quand mon grand-père a été là, ça s'appelait Cedar Hall, une place de cèdre qui donnait naissance aux montagnes Chicha de la Gaspésie. Et durant le séjour de mon grand-père, qui était garde-feu, le feu a pris dans cette cédrière-là. Et heureusement, les colons ont été exemptés. Mais il y avait Monseigneur Ross de Gaspé, qui avait une juridiction à peu près de 300 000 à la ronde, qui aurait fait aujourd'hui un petit village de 300-400 hommes, a entendu parler que Cedar Hall avait besoin d'un prêtre. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Il a trouvé un Monseigneur Briand. Et ce Monseigneur Briand-là est venu à Cedar Hall, il a défriché, il s'est entretenu avec tous les gens de la colonie, et il a changé Cedar Hall pour son nom Briand avec Val en avant. Oh. Et c'est là que Val Briand est devenu Val Briand pour échanger à Cedar Hall. Et ce Monseigneur Briand-là est mort. J'ai la photographie avec une preuve à l'appui. Et ils ont trouvé, pour le remplacer, un Monseigneur Bossé. Que Monseigneur Bossé, toute apparence, il était du lac Saint-Jean, puis il y a une rue à Chicoutimi qui se nomme la rue Bossé.
Dans le quartier Sacré-Cœur.
Dans le quartier du Sacré-Cœur. Et ce Monseigneur Bossé-là est venu à Val-Briand à peu près un an. Et il est mort. Il y avait trop d'ouvrages, puis c'était un vieux. Et après ça, ils ont trouvé le curé J.D. Michaud, un jeune prêtre du Bic. Du Bic, près de Rivière-du-Loup et de Crobston. Et puis son père est mort, mais il est descendu à Val-Briand avec sa mère et sa sœur. Et c'est là que Val-Briand a pris naissance en grandeur, puisqu'il a fait bâtir une église gothique. Il a fait bâtir un presbytère. Il a fait faire le monument de Monseigneur Briand qu'il a érigé devant l'église. Et en avant de ça, il a érigé le monument du Sacré-Cœur. Puis de tout ça, j'ai une preuve à l'appui. Alors, ça veut dire que moi, quand j'étais jeune, et que j'entendais mes oncles, Cedar Hall, Val-Briand, curé Petit Paton, je me demandais comment ça se fait qu'on n'a pas connu ça, nous autres. Puis un bon soir que j'étais chez nous, avec ma petite soeur, on était à terre, puis mon père, ben, c'était un jaseur un peu, plus ma mère qui avait des terribles souvenirs, j'ai demandé comment ça se fait que Sidarolle a changé pour Valbrière. Et c'est là qu'il m'a expliqué que Sidarolle, par Monseigneur Briand, puis par Monseigneur Boissé, est devenu le curé Michaud de Valbrière. Et le curé Michaud, lui, il est revenu à Valbrière à peu près en 1911. Et c'est là que je fus baptisé en mai 1912, le 22 mai. Alors, mon bon curé est mort, ça fait quelques années. Et dans Valbrière, il a sorti à peu près une trentaine de religieux, des prêtres, des religieux, des frères-maristes. Et puis on a eu deux monseigneurs, Monseigneur Saint-Onge, qui est venu à Chicoutimi, que j'ai eu l'honneur de recevoir pendant deux jours, et Monseigneur Gagnon, qui était Monseigneur au Cap-Crou chez les pères du Saint-Esprit, je pense.
Pouvez-vous me parler aussi de Monseigneur Boissé, là, qui avait ouvert une école pas loin du lac Matabédia?
Et c'était une suggestion de Monseigneur Boissé, mais plutôt par son remplaçant J.D. Michaud, qui l'a fondé cette école-là. Et ma mère, Angèle Boulanger, qui était native de Sainte-Luce, près de Mont-Joli, là, elle a entendu parler que Valbrière avait besoin d'une institutrice. Elle a descendu voir parce qu'elle avait fini son cours à 17 ans. Et elle a descendu voir le curé Michaud, puis ils l'ont engagé immédiatement parce qu'il en avait besoin immédiatement. Alors, elle a pensionné chez mon père, Alfred Canuel, qui avait plusieurs enfants au début, qui étaient sur une terre. Et par coïncidence, mon père s'est épris d'elle, comme une blonde, je suppose. Et que dans ce temps-là, pour se marier, il fallait faire sa communion solennelle. Mon père qui avait 19 ans d'altan, ma mère qui était à peu près du même âge, 21 ans, je pense, elle avait 2 ans de plus que lui. Elle lui a montré son catéchisme pour faire sa communion solennelle en prévision du mariage, peut-être dans quelques années. Alors c'est là qu'elle a instruit mon père parce que c'était un illettré. Il ne savait même pas écrire son nom. J'ai vu signer son nom par une croix X. Alors là, imaginez-vous que un illettré avec une institutrice, ça marchait pas trop bien. Mais au fait, ils ont été heureux. Et puis, dans cet intervalle-là, ma mère a gagné 5 piastres par mois. Elle se nourrissait et elle se vêtissait et elle a acheté sa toilette de noces et elle a fait un voyage de noces à Rimouski. Chez une maison, le frère à sa mère, en cinq côtés. L'ancien côté était un gros marchand général à Rimouski. Et son frère Auguste à Matane, c'est lui qui a patenté les machines au cash, les enregistreuses. Et après ça, ben, il s'est fait jouer le tour par un gros millionnaire qui a joué d'un cheveu puis a arraché à la patente du bourgeois. Alors là, à ma mère, elle s'est mariée. Elle a été faire son voyage de noces à Rimouski. Et dans l'intervalle, il était encore sur la terre, ils ont su qu'au village, à Valbrière, la compagnie John Fenderson avait proposé d'ouvrir un moulin sur le lac Matabédia, qui donnait une grosse chance à cette compagnie pour transporter le bois, le printemps, des draves, puis la rivière. Et puis à l'été, il y avait les chars pour transporter le bois à Sébec pour en faire une finition. Mais à Valbrière, c'était le boitillage. C'était à deux chiffres, ça. Et ma mère, qui était un peu une initiative au commerce, puisqu'elle avait un peu d'instruction, a suggéré à mon père de vendre sa terre à la pointe au boulot et d'essayer à rentrer au moulin comme mesureur de bois. Parce que c'était un type qui aimait le bois, qui aimait à fabriquer n'importe quoi. Et il a été au village, puis il a loué un terrain à 5 piastres par année. Et c'est là qu'en vendant sa terre, il s'est rebâti à Valbriand, puis il a déménagé à Valbriand. Et il s'est engagé pour la compagnie John Fenderson, que le gérant de cette compagnie-là, c'était un Irlandais, William Butler. Un chic gars, c'était un Irlandais. Et moi-même, j'ai travaillé pour cette compagnie-là à peu près 2 ans. Et durant la dernière année, dans le mois de juin, au début de l'ouverture, qui a ouvert à la fin d'avril, et je crois que c'était au début de juin, je me suis fait estropier, moi, à la machine à lave. D'abord, je travaillais sur un chiffre de nuit de 7 à minuit, puis de 1h à 6h du matin. Mais le contremaître ne voulait pas qu'on change d'ouvrage. Mais vous savez, quand on est jeune, on se fiche bien à des ordres. Moi, j'ai lâché un cri à mon chum en bas. J'ai dit, on change si y a de job. Oui, oui. Alors moi, qui étais sur le slatcher, qui coupait les côtes en quatre pieds pour faire la latte, lui entêtait les barreaux pour sortir en latte. Alors on change d'ouvrage vite, à dépêchons-nous, à se presser. À peu près une demi-heure après que après avoir changé d'ouvrage, j'ai eu un accident. C'est quand j'ai eu une éclisse de bois pluchée qui m'a traversé à la main et qui m'a traversé à l'épaule doigt puis qui a sorti au quatrième doigt sans être blessé gravement. Alors là, la machine à lave est arrêtée, le slatcher est arrêté, tout le moulin est arrêté. J'ai été voir à mon père qui était mesureur de bois. Et j'ai été voir à mon frère qui était sieur de Grancy, et c'est là que le show a commencé. Alors, le foreman, un nommé Alcyon Roberge, qui était notre voisin, il était un peu jaloux de moi parce que j'étais, comme je peux dire actuellement, j'étais un peu la fantasme. Je risquais tout, puis j'avais peur de rien. Alors lui, vu que j'avais changé d'ouvrage, sans les ordres, il s'est fâché, il m'a envoyé chez un médecin, puis il m'a congédié du moulin. Bon, ça, c'était un samedi matin à 5h du matin. J'ai sorti du moulin avec une éclisse dans la main à peu près de 12 pouces, qui était rentrée dans la pomme de la main, puis qui m'a sorti en dessous du quatrième doigt, sans briser à les nerfs.
Entre le pouce puis l'index?
Entre le pouce puis le petit doigt. Et c'est là que j'arrive chez un docteur Drolet. Il était 5h, je sonne deux, trois fois, il vient en caleçon, puis il me connaissait bien parce que durant mes vacances, je travaillais un peu pour lui dans la peinture, puis dans les réparations un peu de
par vos ménagers.
Alors il me demande ce que tu as pris ça. Ben, je dis, je lui ai expliqué la situation. Il ôte à l'éclisse de bois, puis il me fend entre les deux derniers doigts. Il prend des pinces, puis il m'ouvre à la plaie, puis il me vide la teinture d'iode. Ça coulait à terre. Imaginez-vous qu'en présentant la teinture d'iode, ça a été comme un feu dans la main. Alors là, il m'a strappé la main après une planche, puis il dit, là, il dit, tu vas marcher continuellement aujourd'hui, pour pas que tu te baisses la main, pour pas que ça descende dans le bas, parce qu'il a dit, tu vas souffrir énormément. Alors, je me suis promené toute la journée avec le bras en l'air, rencontrant mes chums, rencontrant n'importe qui, je leur expliquais ça. Toujours est-il que, dans l'après-midi, j'étais fatigué de tout raconter, la même maudite histoire. J'arrive à la pharmacie de Dr. Nolet, Georges Rinaudet, que je travaillais souvent pour lui. Il était riche, puis Il m'a pris en complaisance, quoi. Je peinturais, je travaillais le bois pour lui, puis je coupais le gazon. Et finalement, il m'a demandé encore qu'est-ce que j'avais là. Et la même histoire s'est répétée. Ben, il dit, écoute un peu, Joe, dit, mercredi, là, ça, c'était le samedi. Il dit, mercredi prochain, il dit, je monte à Montjolie pour changer de char chez Eugène Bellil. Il dit, ça ferait du plaisir, il dit, d'apprendre le métier de peintre et de masseur. J'ai dit, quoi est-ce que c'est ça? Ben, il dit, je ne sais pas, il dit, tout ce que je sais, il dit, je vais travailler un gars après une tôle, puis il dit, l'autre, elle a peinture, puis il dit, je trouve ça énormément beau. Puis j'ai dit, puis j'ai pensé à toi, il dit, Canuel, il dit, il aimerait ça, parce qu'il dit, il est pas mal à droite. Et c'est là que, le mercredi, j'ai monté à Montjoli, et il a acheté son char, et par après, le propriétaire, Eugène Bellil, m'a frappé dedans vide de la porte, puis il m'a rappelé, râle, et c'est là qu'il m'a engagé. Et il dit, es-tu prêt à commencer lundi matin? J'ai dit, oui, monsieur. Comment est-ce que vous payez? Il dit, on paye 8,5 $ par semaine, puis il dit, tu vas pensionner en avant, il dit, tu vas payer 6,5 $, il te reste 1,5 $ par semaine. Et il dit ça, il dit, ça va durer 3 ans. Mais 1,5 $ par semaine, on avait plus qu'aujourd'hui parce qu'on allait au théâtre pour 15 cents. On fumait un Torette à 5 cents.
C'était des cigarettes.
On mangeait un gros sundae à 5 cents. Et on sortait avec les filles. Et en fin de semaine, il nous reste encore un bon 50 cents. Plus à la semaine à venir, 1,5 $, ça marchait bien. On s'achetait un outil de temps en temps. Et alors là, j'ai monté à Montjoli. Mes parents étaient contents un peu de voir que j'apprenais un métier et surtout que c'était pas trop loin d'eux autres. Alors j'ai appris le métier pendant 3 ans. Et au bout de 2 ans, je savais pas mal bien, j'ai déménagé à Rimouski, chez Pierre Manor. Là, j'ai gagné 15 $ par semaine. Et je payais encore 6,5 $ de pension, et c'était un peu le prix normal dans cette période-là pour les pensions. Je pensionnais encore en avant du garage. Alors là, de Rimouski, j'ai voyagé un peu à Rivière-du-Loup, Alcoué, Valbriand, qui était ma place de la naissance. Et puis, j'ai pris goût au voyage. Tout en me ramassant pas d'argent, parce que j'oserais dire que l'argent brûlait à les poches. J'en avais jamais ramassé. Et je pensais que l'argent, ça, c'était inépuisable. Mais je me suis aperçu un jour qu'il fallait en avoir pour vivre. Alors là, un soir, j'avais su qu'un type de Valbriand, nommé Pierre Brochu, que son père était marchand général, vendait des chars de patates à Montréal. Et ce Pierre Brochu-là, qui était son garçon, a monté un char de patates à Montréal, et au coup vendu, il a viré une brosse, comme on disait à l'intérieur. Il a pris un coup, puis c'est Michaud, puis s'est retrouvé à Chicoutimi par hasard. Ça faisait longtemps qu'il pensait, si j'ai une chance, je vais aller voir Chicoutimi. Et toujours ici, on retrouvait là. Et il a ouvert un restaurant au coin de la rue Morin, puis un quartier. Et il a connu une fille d'un architecte, l'architecte Pagé. Ils ont été à peu près 1 an mariés à Chicoutimi. Et la fille, ben, elle voulait avoir mieux que ça. Ils ont descendu à Valbriand, il s'est ouvert un garage, puis un restaurant. Et moi, toutes les fins de semaine, quand j'étais à Mkoui ou à Rimouski, je descendais voir à mes parents un samedi soir sur un local que j'arrivais à Chicoutimi à 8h30. Et on voyageait. Le soir, j'allais au restaurant. Et c'est par cette fille-là, Mme Brochu Aliette Pagé de Chicoutimi, qui m'a demandé un soir, elle a dit, seriez-vous intéressé à dire monter à Chicoutimi? Moi, par hasard, j'ai dit oui tout inconsciemment. Elle avait une de ses sœurs qui était venue à Chicoutimi, à Valbriand, puis j'ai supposé qu'elle avait un œil sur moi. Peut-être parce que j'avais un peu de misère à parler, mais ça, ça va bien. Alors, Elle m'a fait trois applications. Une pour autobus et taxi Saint-Anne, un autre pour Gautier à Canville et un autre pour Côté-Brevin.
Des entreprises de Chicoutimi.
Des gros garages de Chicoutimi. Et par hasard, une semaine après, je reçois un télégramme de autobus et un taxi 500 de Audion-Revier à Grand-Bosse et qui avait Bruno Adamès, son gérant, et qui était signé Bruno Adamès, le gérant, et dit, montez immédiatement, ouvrage à temps. Salaire, point d'interrogation. Alors là, je suis tout content, je monte ça à mes chums, à mes parents, mais mes parents, eux autres, chez Coutumi, chez nous, à Valbriand, ça paraissait comme en Afrique. Il y a surtout à ma mère, qui était un peu une mère poule pour tous mes frères et sœurs, a dit, mon petit garçon a dit, si tu vas chez Coutumi, on va te perdre. Il nous aurait pillé avec toi, là, qu'on peut se voir à toutes les fins de semaine. A dit, tes sœurs et frères, ils sont mariés. L'autre sœur est mariée après moi. Elle était à Man, reste gauche dans le Nouveau-Brunswick. Elle dit, reste bien avec toi. Elle dit, pourquoi est-ce que tu resteras pas ici? J'ai dit, maman, on va faire un marché avec vous. Je vais aller chez Coutumi, puis je vous promets d'écrire à tous les 15 jours. Et si ça ne fait pas, je m'en viendrai. J'avais gagné un peu d'argent, mais quoique je donnais tout à mes pays, à mes parents, je gagnais au moulin. 18 piastres par semaine. Et quand j'ai été en apprentissage à Rimouski, je descendais à toutes les fins de semaine, puis je leur donnais presque tout dans ma paie, puis je me gardais un passant pour remonter, et puis une coupe de piastres pour mes petits dépenses. Bon. Enfin, je me suis dit, si elle en manque, elle en demande au patron, regardez-moi. Alors, ils consentent à me laisser aller à Chicoutimi. Mes chums viennent me conduire un soir à 8h30 pour Chicoutimi. Je prends le train d'Océan Limité.
Vous aviez quel âge à ce moment-là environ?
Là, j'avais 22 ans.
22 ans.
Et en arrivant à Chicoutimi, j'ai parti le soir à 8h30 et je suis arrivé le lendemain soir à 5h30. Le 28 septembre 1936, j'arrive à la gare de Chicoutimi, je vois en avant de moi des montagnes, c'était à part de vue, des petites lumières électriques, ça faisait penser à des chandelles sur une butte de décembre. Un taxi qui m'attendait parce que le gérant avait dit, va chercher M. Canuel qui va arriver à soir avec mon coffre d'outils puis dans ma valise. J'engorge ça. Le taxi dit, ici, monsieur, j'ai dit, arrête un peu peur. Là, j'ai dit à moi-même, je ne serai pas longtemps ici, je vais m'en aller dans l'Ontario. Je voulais approcher un automobile parce que j'étais dessinateur orné et j'avais une assez bonne instruction que je parle anglais en finissant le collège. Et je voulais faire des plans pour inventer un plan automobile à Oshawa. Mais, en embarquant dans le taxi, je lui ai dit, je vais toujours connaître Chicoutimi, je ne suis jamais venu ici. Je lui ai dit, tu vas me conduire à la meilleure hôtel. Il m'a conduit à l'hôtel Champlain. Et je payais 8 piastres de pension. Et je gagnais. Alors là, quand j'étais à l'hôtel à Chicoutimi, j'ai été à deux jours. Le taxi a dit à mon gérant, il dit, M. Canuel est arrivé là. Alors, le gérant, lui, une journée et demie après, il a dit, il vient pas, lui, qu'est-ce qu'il y a? Il a téléphoné à l'hôtel Chicoutimi, il dit, je veux parler à M. Canuel. Alors, je suis allé au téléphone, alors je dis, je pense que vous allez parler d'un joueur, M. Demers, je dis, je me donne pas à Chicoutimi, c'est trop montagneux, puis je dis, c'est pas de place que je vais critiquer.